Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Eh bien, à l'Open d'Australie aujourd'hui, on est avec Charlotte Fairbank. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors parlez-nous un petit peu de votre quinzaine, on va dire, peut-être un tout petit peu plus qu'une quinzaine australienne. Un tournoi qui est important dans le calendrier.
Très important, moi c'est mon tout premier Grand Chelem, ma toute première qualif pour un Grand Chelem. Donc vraiment une tournée très émouvante. Je l'ai su dernière minute, je l'ai su il y a un mois que je venais en Australie, donc tout s'est fait un peu dernière minute, mais ça a été une expérience incroyable, plus qu'incroyable. J'ai kiffé, même si je perds au premier tour simple et double, mais je réussis à gagner ce match assez important en qualif, donc j'étais hyper contente. Mais ouais, je perds simple et double, mais aucun regret, je garde que du positif, parce que premier grand chelem, forcément, il y a de grandes émotions, et c'est vraiment une très très belle tournée.
Ce tournoi australien, il est un peu particulier quand même pour le tennis en fauteuil. C'est un tournoi, c'est le premier grand chelem de l'année, mais il a une place particulière pour les joueurs et les joueuses.
Bah ouais, souvent les joueurs disent que c'est un peu le grand chelem préféré, parce qu'il y a une telle ambiance un peu électrique, il y a une vibe australienne qui est folle, et puis surtout en fait les joueurs en fauteuil sont traités exactement de la même façon que les joueurs valides, et ça pour nous c'est le plus important, c'est le point le plus important, parce qu'on a envie d'être traités comme des joueurs pros tels les joueurs valides, et c'est exactement le cas. On partage le player dining, on partage le lounge, on partage les vestiaires avec les joueurs valides, et donc on se sent vraiment comme si on faisait vraiment partie de ce monde.
Mais vous faites partie de ce monde.
Exactement, et on fait partie de ce monde. Donc c'est hyper important de vraiment le ressentir. Et je pense que j'ai jamais fait les œufs de Grand Chelem, comme je disais, c'est mon tout premier. Mais j'ai un peu ce ressenti avec les autres joueurs que ici, on est vraiment traité comme des pros.
2023, 2024, 2025, c'est des années un peu particulières pour le sport en général en France. Il y a eu un avant JO, il y a eu les JO et il y a l'après JO en ce moment. Est-ce qu'on est dans une période charnière de l'après JO justement ?
On est effectivement dans une période un peu charnière. L'expérience, le pré-JO et même l'après JO a été tellement incroyable. On a vécu des émotions folles avec l'équipe, avec le public. C'était ma plus belle expérience dans le monde tennistique. Enfin, même les semaines les plus belles de ma vie, je dirais. Le post-JO, ça a été un peu difficile. Il y a pas mal d'entreprises qui se sont désengagées par rapport au sponsorship avec les athlètes, avec les joueurs de tennis notamment. Et donc ça a été un peu difficile de se remotiver, et puis surtout par rapport à l'apport financier, de retrouver des sponsors. Moi je suis un peu pas repartie de zéro, il y a quelques sponsors qui sont restés, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui n'ont pas renouvelé leur contrat, et donc ça a été c'est un peu dur de recommencer à zéro, disons. Donc on continue à bosser, mais on espère que 2025 va se tout le monde sera remotivé pour essayer de d'être investi dans le sport para à fond.
L'argent, c'est le nerf de la guerre dans tout, mais encore plus dans le sport, et encore plus, j'allais dire, dans le sport paralympique. Parlez-nous un petit peu justement des enjeux de l'argent, parce que c'est pas juste financier sur votre compte en banque, c'est carrément pour même juste venir participer à des tournois, et ça c'est compliqué presque jour le jour, malgré le fait que les grands chelems soient peut-être une breath of fresh air, comme on dirait en anglais.
Ouais. C'est vrai qu'en grand chelem, on gagne un peu plus que sur les autres tournois, ça c'est clair. Mais oui, en fait, sur tous les autres tournois de l'année, à part grand chelem et peut-être master, on gagne pas assez pour en vivre du tout. On gagne assez pour rembourser nos frais, surtout si on part avec un coach ou un kiné ou un préparateur physique en plus. Souvent, on rembourse nos frais et sans plus. Et donc oui, en fait, l'argent est une partie un peu intégrante du circuit. Tout le monde en parle tout le temps, parce que c'est vrai que sans sponsor, on peut même pas partir en tournoi. Et donc, ouais, on est tout le temps en recherche constante de sponsors. Et si on n'est pas dans le top 10, c'est-à-dire que si on ne fait pas partie des tableaux de Grand Chelem, c'est vraiment pas la même vie. Et donc,
et ça prend la tête, ça, quand même ? Est-ce que ça prend de l'espace dans la tête ? Quand je dis prend la tête, c'est prendre de l'espace dans la tête, l'espace qui pourrait être pris pour la performance et la motivation, et, etc.
Ouais, ça prend pas mal d'espace. Moi, par exemple, je l'ai vraiment ressenti... l'année avant les Jeux 2022, 2023, 2024, j'avais pas ce souci-là parce que justement je me suis associée à pas mal de boîtes et j'ai eu cette chance-là d'avoir beaucoup de sponsors. Et en fait, ça m'a libéré les pensées. J'ai réussi à vraiment me focaliser purement sur le tennis et mes objectifs, mes rêves, etc. Et là, du coup, ce post-jeu avec les sponsors qui. Enfin, il y en a quand même beaucoup moins. C'est vrai que ça re-remplit la tête à nouveau avec ça. Et c'est assez embêtant en 2025 de devoir penser à tout ça.
C'est quoi les rêves de Charlotte Fairbank tennistiquement ?
Les rêves de Charlotte Fairbank. Alors, mon rêve de 2025, c'était participer à un Grand Chelem.
Ça, c'est fait. On est mi-janvier, c'est fait.
Donc, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Mais ouais, donc c'est pour ça que je suis tellement contente. Les autres rêves, ce serait j'aimerais vraiment participer à Roland aussi. Malheureusement, j'ai loupé le coche d'une semaine près l'année dernière pour me qualifier. Donc, ce serait un énorme rêve de participer au Grand Chelem at home. Rentrer dans le top 20 et y rester. J'ai eu du mal à grimper au classement dernièrement parce que le niveau, et j'en suis très contente, hein, mais le niveau chez les filles augmente très très vite. Donc j'aimerais bien rentrer dans le top 20 et y rester. Et juste, comme toujours, prendre plaisir sur le terrain et juste être heureuse dans ma vie.
Il y a un livre aussi qui a été écrit. Je fais mes recherches. Hein. Enfin, on a fait les recherches pour moi, on va dire. Mais le livre est important. Et ça a été important pour vous, ce processus d'écriture, justement, pour l'acceptation du handicap chez les jeunes et la discussion dans les familles.
Ouais, c'était un projet passion que j'avais depuis un certain moment. J'ai commencé à y penser quand j'étais blessée. Et donc, je jouais pas pendant un moment. Donc, j'avais d'autres petits projets en tête. C'était exactement ça, c'était pas forcément par rapport à mon acceptation du handicap, parce que moi ça faisait un bout de temps que je l'ai accepté, mais c'était plus pour essayer de favoriser un dialogue sur le thème du handicap. Je pense que c'est encore un sujet tabou en France.
C'est incroyable en 2025.
Ouais, on a un peu de retard par rapport aux pays anglo-saxons par exemple. Ça s'est amélioré avec les Jeux. On a fait des avancées énormes sur ce thème-là, mais ça reste encore un sujet où les gens sont peut-être mal à l'aise quand ils voient une personne en situation de handicap. Ils ne savent pas forcément, pas toujours comment parler avec cette personne. Et moi, ça me titillait et ça me gênait. Et puis, j'ai décidé d'écrire ce livre pour justement favoriser ces dialogues, mais aussi pour montrer aux jeunes, aux enfants surtout en situation de handicap, que handicap ou pas, on est capable de tout faire. Et si on a des rêves dans la vie, on doit foncer et les faire. Et c'est pas le fauteuil ou l'handicap en soi qui va nous en empêcher.
En anglais, on dit love is love, et on peut dire sport is sport.
Exactement, sport is sport. Mais non, mais c'est exactement ça. Et moi, le sport m'a aidé à franchir une étape mentale dans ma vie pour vraiment accepter mon handicap à 100%. Je pense que le sport peut énormément aider à ce niveau-là. Et donc, j'encourage un maximum de personnes en situation de handicap à s'essayer à un sport. S'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Mais au moins, d'essayer, parce que je sais que ça peut changer des vies.
Ce dialogue, il est important dans les familles aussi, chez les jeunes enfants. Vous parlez d'un livre, mais pour les parents, mais pour les jeunes aussi, dans l'autre sens. S'il y a une personne handicapée jeune, c'est important de cette acceptation par rapport aux parents, elle est primordiale.
Ouais, exactement. Et mais comme tu dis, je l'ai écrit pour les parents, dans le sens où je les aide à soulever ce tabou qu'ils ont face aux handicaps, mais pour les enfants aussi également, pour leur montrer que qu'en fait une vie en fauteuil, ça se finit pas là. Enfin, on a une vie qui peut être riche en émotions, qui peut être joyeuse, qui peut être pleine d'amour. Et c'est ça que je voulais vraiment montrer, que en fait c'est pas le fauteuil qui va changer la chose. Et c'est un changement, justement, ce regard que le public porte, enfin que la société porte sur le handicap, qu'on va réussir à changer l'esprit des gens et à avancer à ce niveau-là.
Juste un petit retour sur les JO de Paris. On s'est rendu compte, peut-être après coup, que les JO, les Paralympiques étaient peut-être les vrais JO des vrais Parisiens. Je m'explique. Beaucoup de gens m'ont dit que beaucoup de Parisiens, pendant les JO, sont partis. Ouais. Ils sont revenus et ils se sont dit, ah, ils ont vu la ferveur des JO et ils ont décidé de venir participer. Il y a eu un engouement populaire parisien pour les Paralympiques. C'est vrai, ça s'est vu de l'intérieur?
Ça s'est vu, dans le sens où effectivement, il y en a plein qui sont partis au moment des Jeux Olympiques. Et au moment des Jeux Paralympiques, ils se sont dit, en fait, on a vraiment raté quelque chose là. Enfin, y a, comme tu dis, il y avait un engouement, mais incroyable, et une telle ferveur que les gens sont revenus, je pense, plutôt de leurs vacances pour justement assister aux Jeux Para. Et c'était incroyable. Nous, on l'a vraiment ressorti en tant qu'athlète. Et je suis 25e mondial. J'ai pas fait tant de gros événements que ça. Mais moi, quand je parle au top 10, top 5, qui font des grands chelems et qui ont assisté à de nombreux jeux, tout le monde dit que les Jeux de Paris ont été les jeux les plus incroyables de l'histoire, dans le sens où il y avait un public de fous et on n'a jamais vu autant de gens dans les stades. Et je pense qu'il y a vraiment de nombreux Parisiens qui sont venus assister au match parce qu'ils ont vu cet engouement qui ne partait pas avec les Jeux Para. Donc c'était vraiment une expérience complètement folle.
Et c'était beau de voir que les Parisiens se sont aussi appropriés une part de ces JO.
Complètement. Ouais. Tous les Parisiens se sentaient, voulaient faire partie directement ou indirectement de ces jeux. Il y avait, 45 000 volontaires. Il y avait de nombreux Parisiens dans ces volontaires qui ont assisté aux jeux. Et comme je disais, les gradins étaient complètement pleins. Enfin. Pour la boccia, pour le tennis, pour le basket fauteuil, enfin pour tous les sports. Et c'était beau à voir, quoi, parce qu'on n'avait jamais vraiment vécu ça.
Bah merci en tout cas, et puis j'espère qu'on se reverra dans 12 mois, ici même en Australie, avec un beau tournoi de Roland-Garros entre les deux.
J'espère bien. Fingers crossed.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.